Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Cet épisode est une rediffusion. Durant le mois de juillet et août, nous vous proposerons de découvrir ou redécouvrir les épisodes et réflexions de nos débuts. Depuis le début de ce projet de podcast, nous avons eu l'occasion de rencontrer et de discuter avec différentes personnes sur les questions de la discrimination à l'école. C'est pourquoi nous avons décidé de sélectionner quelques passages de ces discussions avec certaines et certains de nos invités. Nous avons voulu intégrer à notre épisode 6 de la saison 1 la parentalité remise en question. Les réflexions de Fatima Wasak de l'épisode 4, de Jiyan de l'épisode 7 de la saison 2. Et si vous souhaitez participer au podcast, n'hésitez pas à nous contacter sur lesenfantsdubruetdeleodeur@gmail.com ou sur notre compte Instagram. Et afin de soutenir notre travail, faites du bruit en partageant le podcast tout autour de vous. Laissez-nous une pluie d'étoiles sur Apple Podcasts et iTunes. Mettez vos plus beaux commentaires d'encouragement. En attendant de vous retrouver le lundi 6 septembre pour la 3e saison, nous vous souhaitons de bonnes écoutes avec nos rediffusions d'été et de belles vacances.
Quand je serai grande, je serai astronaute.
Salut Marie.
Salut Prisca.
Okay.
Comment ça va aujourd'hui?
Je vais très bien. Et toi, comment vas-tu aujourd'hui?
Bah écoute, tout va bien. Alors aujourd'hui, nous allons aborder le thème de la parentalité remise en question. Alors, qu'est-ce que tu as à me dire aujourd'hui sur ce thème?
Alors, ce sujet, on peut l'aborder sur la question historique du rapport de l'école aux parents. Mmh. Sachant que la création de l'école, déjà, elle est basée sur un système qui était hiérarchisé. Donc, la hiérarchisation des positions sociales. Donc, le rapport à l'école en France fonctionne de manière déjà ségrégative. C'est-à-dire que l'école était réservée à ce qu'ils appelaient l'école primaire, était réservée à la classe ouvrière. Mm-hmm. Et l'enseignement secondaire était réservé à la bourgeoisie.
Exactement.
Pierre Bourdieu avait fait des travaux dessus et il montrait comment l'école, par son fonctionnement, permet de maintenir des privilèges. Donc déjà, quand on voit le rapport comme ça...
Entre les élites.
Donc là, on parle d'une élite et la classe ouvrière et du rapport après que ça peut créer entre l'immigration, enfin toutes les populations qui sont issues des anciennes colonies, qui sont arrivées en France et qui ont fait partie de ces classes ouvrières. Donc, on est passé du rapport de force bourgeoisie-classe ouvrière à bourgeoisie-classe ouvrière et population racisée.
Alors, c'est vrai que historiquement, l'école a toujours été en fait un vecteur de classification. Ça peut être social ou alors sous le thème de classification aussi, selon les personnes, selon les pays, selon si vous étiez un Français sur l'Hexagone ou un Français des colonies ou par exemple à La Réunion, le système scolaire n'était pas fait de la même façon que le système scolaire sur le territoire de l'Hexagone. Aux mêmes époques, on ne traitait déjà pas les enfants, les parents, les personnes qui allaient à l'école de la même façon que ça soit en France ou ailleurs.
D'accord.
À La Réunion, tu peux voir qu'il n'y avait pas une obligation de scolarité jusqu'en 1960. Ça veut dire qu'on a commencé à scolariser les enfants racisés massivement qu'après 1960.
D'accord.
Donc, il y avait une différence de traitement déjà sur l'Hexagone et sur les autres territoires.
D'accord.
Et du coup, l'école était vecteur de différenciation sociale et maintenait cette différenciation sociale.
Ouais.
Comme tu le disais tout à l'heure, avec le fait que les enfants d'ouvriers devaient s'arrêter en primaire et puis les autres pouvaient en fait les élites pouvaient continuer en école en école supérieure. Et ben c'était la même chose aussi avec des enfants racisés. Et sachant en plus que l'immigration en France est arrivée différemment en 1970 par exemple avec l'arrivée des familles. Donc à partir de là, l'école a aussi évolué quand ils ont reçu en fait les enfants de la première génération d'immigrés.
Oui, comme tu dis, déjà sur le territoire entre l'Hexagone et les territoires d'outre-mer, le fonctionnement n'était pas identique. ben, le fonctionnement n'était pas non plus identique pour les enfants racisés avec les parents qui étaient issus de l'immigration, comme ils disent, première vague, et les enfants qui étaient nés sur le territoire français. Donc en gros, quand tu étais un enfant racisé, tu avais le poids de ta classe, mm-hmm. et en plus, tu avais le poids d'être un enfant d'immigré. Donc du coup, le rapport n'était pas du tout le même avec avec l'école. Parce que les enfants racisés, faut savoir qu'au niveau de la scolarisation, ils avaient des classes qu'on appelait les ELCO.
Oui.
C'est-à-dire qu'en gros, on les mettait à l'école. Mm-hmm. Ils avaient encore les cours de leur pays d'origine.
Oui.
Parce que pour l'État français, ces enfants-là n'étaient pas destinés à rester de manière définitive sur le sol français.
Tout à fait. Oui.
Donc, c'était déjà pas la même approche au niveau de la scolarité et le rapport aux parents. C'était que pour l'école et pour l'État français, mm-hmm. tous ces parents-là et leur progéniture qui était sur le territoire français devaient repartir.
Mm-hmm. Et en plus, avec la première vague d'immigration et le regroupement familial, les parents, quand ils sont arrivés en fait sur le territoire français et quand ils ont dû scolariser ces enfants, il y a eu aussi le fait que certaines personnes ne parlaient pas français, ne maîtrisaient pas la langue. Et du coup, il y avait aussi déjà une espèce de scissure entre l'école, entre la vision que les enseignants avaient de ces parents. Parce que, comme on en avait parlé lors de l'épisode de la transmission de la langue,
oui.
le fait de pas pouvoir parler correctement le français quand on vient d'une immigration des anciens pays colonisés, n'est pas vu de la même façon que de pas très bien parler français quand on vient d'un pays européen.
Oui.
Donc à partir de là, ces parents-là déjà ont été stigmatisés rien que par le fait qu'ils ne maîtrisaient pas la langue française.
Et puis c'est surtout, faut pas oublier que l'immigration des anciennes colonies, il y a quand même un rapport de domination mm-hmm. qui est resté malgré les indépendances du colonisateur sur les indigènes. Donc ce rapport mm-hmm. de domination, il est resté ancré dans les institutions, avec tous les stéréotypes qui ont pu être véhiculés depuis la colonisation et la propagande qu'il y a eu derrière, hein, avec mm-hmm. Le cinéma, les arts, les zoos humains, faut pas oublier. Donc en gros, mm-hmm. on a tout cet imaginaire qui est encore vif, et toutes ces populations immigrées qui arrivent, avec tous les stéréotypes qu'il y a derrière, et ce rapport de domination, parce qu'on a toujours fait croire que tous les peuples colonisés étaient des bons petits sauvages qu'il fallait civiliser.
Mm-hmm.
Donc tout ce rapport de domination reste ancré, et le rapport qu'il y a entre ses parents, ses élèves et l'institution scolaire a encore un rapport de paternalisme et de mission civilisatrice.
Exactement.
Donc à partir de là, les parents et les enfants racisés, on leur faisait comprendre qu'ils n'étaient pas à leur place.
Mmh. Tout à fait.
L'école a dû s'adapter, mais pas forcément en gommant tous les stéréotypes qui étaient ancrés. C'est-à-dire mm-hmm. que l'école s'est adaptée, mais en continuant à véhiculer tous les stéréotypes qui se rattachent aux parents racisés. Tout le côté parents démissionnaires ou parents trop laxistes.
Oui.
Et tous ces stéréotypes, si on regarde bien, entre le discours de Jacques Chirac, où il dit que tous les immigrés font plein d'enfants et ils sont là pour les allocations familiales, je pense qu'il y a des parents aujourd'hui qui l'entendent encore, et à travers toutes les politiques qui ont été mises en œuvre, je ne sais pas si c'est encore le cas, mais quand c'était l'histoire de supprimer les allocations familiales pour les enfants qui étaient trop absents, il y a encore toujours ce stéréotype derrière, on fait des enfants pour les allocations familiales.
Il y a derrière le fait de supprimer les allocations familiales, le fait de se dire on va punir financièrement le parent parce qu'en fait il fait des enfants, comme tu disais, juste pour avoir de l'argent sans en réalité prendre en main son rôle de parent, son rôle de pédagogue, son rôle d'éducateur au sein de la famille.
Mmh.
Et c'est vrai qu'on a d'ailleurs, ce genre de stéréotypes qu'on entend régulièrement, encore une fois, avec les papas polygames.
Voilà, c'est ça.
Qui ont plusieurs enfants afin d'accumuler, en fait, les allocations familiales par enfant. Alors, c'est limite si ces papas vont devenir milliardaires, hein, parce on parle pas de petites sommes, en fait, on parle d'énormes sommes. Mais ce qui est rigolo, c'est qu'en fait, ils te disent quand même que ces parents sont capables d'avoir 10 000 euros de prestations, dues aux allocations familiales. Mais, par contre, ils vivent dans des logements insalubres, dans des quartiers où tout le monde est entassé.
Mmh.
Et je me dis, mais quel type de personne va aller vivre dans des logements insalubres?
Avec 10 000 euros.
Avec avec 10 000 euros, quoi. Mmh. Donc, puis, c'est toujours, en fait, cette espèce de fantasme.
Voilà, de fantasme, c'est ça.
Sans aucune preuve, avec, en plus, basé sur rien du tout, mmh. Sur le fait, en fait, qu'il y aurait des énormes détournements d'argent mmh. faits par les personnes racisées mmh. afin de...
Bah, de s'enrichir. Oui. Mais en fait, c'est d'autant plus faux, parce que, moi, je sais pas toi, mais dans la famille autour de moi, ou même dans mmh. d'autres familles avec... d'autres amis que j'ai eus, on a tous eu la pression à l'école parce que nos
mais
parents
sûr,
nous ont
hein.
toujours dit « tu fais des études parce que je veux que tu aies un bon boulot ». Donc d'avoir cette idée en disant qu'ils font juste des enfants pour faire des enfants, que derrière il n'y a aucun suivi, c'est déjà méconnaître l'exigence des familles
exactement,
racisées.
Exactement.
Vous allez entendre un extrait de l'épisode 4 de la saison 2. Intitulé « La puissance des mères », dans lequel Fatima Wassak raconte son enfance, l'importance de l'école pour ses parents, ainsi que l'apport intellectuel et personnel des voyages d'été de son enfance au sein des montagnes marocaines.
Il y avait un discours très valorisant vis-à-vis de l'école mm-hmm. chez mes parents, donc il fallait réussir à l'école.
Oui.
Et l'institution scolaire, c'était important
oui.
Parce qu'aussi, à ce moment-là, plus qu'aujourd'hui, il y avait l'idée que l'école, ça pouvait être vraiment un moteur d'ascension sociale.
Mm-hmm.
Mon père était ouvrier de nuit, il voulait pas que ses enfants soient travaillent à l'usine, en fait.
Mm-hmm.
Parce qu'évidemment, voilà, il y avait des problèmes de santé. Bon, voilà, c'était voilà la condition ouvrière, quoi.
Mm-hmm.
Donc, évidemment, il ne voulait pas ça pour ses enfants. Et que l'école, en fait... dans son esprit à l'époque, nous permettrait de ne pas vivre la même condition,
mmh.
de ne pas être dans les mêmes conditions matérielles d'existence, quoi. Et du coup, il y avait cette grande valorisation de l'espace scolaire et de tout ce que ça pouvait apporter pour nous, pour notre avenir,
mmh.
et en même temps, une farouche défense de ce qu'on était et de
oui.
nos héritages et de l'islam et de la langue et encore une fois de la culture. Alors moi, il n'y a pas une année où je ne suis pas rentrée au Maroc pendant un mois et demi, quasiment un mois
mm-hmm.
et demi. Aujourd'hui, on serait incapable, même financièrement, tu vois, de permettre à nos enfants de passer un mois et demi dans les
Exactement.
Montagnes du Maroc. Pour nous, à l'époque, c'était année après année.
Mm-hmm.
J'ai pu m'en plaindre.
Mm-hmm.
D'ailleurs, pour tout dire, quand je rentrais de vacances et que commençait voilà la rentrée, comme tout le monde,
mm-hmm.
et encore aujourd'hui, hein, tu dois raconter tes vacances. Moi, je m'inventais des vacances, par exemple.
Mm-hmm.
Je n'assumais pas d'être rentrée au bled. Pour moi,
mmh.
c'était pas des vacances.
Mmh.
C'était vraiment très dévalorisant. Les vacances au bled n'étaient pas considérées comme en tout cas par moi. Et
oui,
je pense qu'on est pour
beaucoup
à
voilà,
partager.
C'est ça. Voilà.
Pas comme
Alors
normal.
Que nos parents, justement, comme tu disais, se saignaient quand même hein, pour pouvoir nous offrir ces vacances
ah,
qui
absolument.
Étaient des vacances quand même.
Ah, mais un génie chez nos parents. C'est-à-dire
oui.
que pour nos parents, d'ailleurs, je le dis à un moment dans le livre, les
mm-hmm.
ministres, les différents ministres là, de l'éducation nationale qui viennent chercher des poux dans la tête des femmes voilées notamment
mmh,
pour leur
mmh.
dire non mais les sorties scolaires et tout, quand tu vois la tête des sorties scolaires, c'est pour aller au zoo
oui.
municipal dans un pauvre truc
mmh.
et en fait mais t'as envie de leur dire mais nos parents mais ils nous emmenaient dans les montagnes d'Afrique
oui.
pendant un mois et demi, c'était dépaysement, c'était séjour linguistique,
exactement,
c'était voilà séjour culturel, c'était, enfin je veux dire, mais vous seriez incapable avec vos pauvres petits budgets d'éducation nationale d'offrir ça aujourd'hui
mm.
À nos enfants, donc c'est bon
mm.
pour tout ce qui est épanouissement de nos enfants en termes culturels, linguistiques, en termes d'ouverture l'ouverture de leur,
oui,
leurs imaginaires,
l'imaginaire,
ouais. des savoirs, effectivement. Bon, voilà, nos parents ont su
mm-hmm.
gérer ça, ils ont su nous apporter ça, quoi.
Il y a des études, hein, de fait, sur les relations entre les parents et l'école. Et on voit bien, en fait, dans ces études, qu'ils parlent du fait que les parents ont une haute attente de l'école et que les parents veulent que, ils veulent que leurs enfants réussissent, en fait.
Oui.
On a eu cette espèce de pression vis-à-vis de nos parents en disant, bah non, faut être médecin, faut être avocate, faut être, je sais pas, c'était toujours les mêmes choses, quoi. En fait, vétérinaire, chirurgien, ingénieur, on avait ces métiers-là qu'on, d'ailleurs, c'était toujours les mêmes.
Oui.
Et on avait cette espèce de pression, il fallait réussir absolument au niveau scolaire.
Fallait
pour
avoir les meilleures
socialement.
Notes, fallait être le plus assidu,
voilà.
fallait être le plus sérieux, les devoirs à la maison, attention, t'avais intérêt que ce soit carré et tout. Donc dire que les parents racisés sont laxistes, qui s'intéressent pas et qui font que des enfants pour de l'argent, c'est vraiment, comme tu dis, s'il y a des études et que c'est pas pris en compte, c'est vraiment rester bloqué sur ses idées et n'a pas avoir envie d'ouvrir les yeux. Et puis aussi de se dire que l'institution scolaire impose des critères pour déterminer qui est un bon parent et qui n'est pas un bon parent. Donc pour eux, être un bon parent, c'est les parents qui vont être présents à toutes les réunions d'école, qui vont faire toutes les sorties, tu vois. L'école impose un modèle du parent parfait.
Et attends, parce que faire toutes les sorties, est-ce que tu peux, en tant que parent, quand tu es une mère portant le foulard, alors être bon parent, c'est quoi aussi? C'est être catholique, il y a aussi cette idée là derrière de se dire même si tu t'investis en fait en tant que parent, si tu veux participer aux activités scolaires, si tu veux faire l'accompagnement, si tu veux intervenir dans la vie scolaire de ton enfant, parent d'élève et tout le reste, tu n'es accepté qu'à une condition. Mmh. Donc à partir de là, c'est difficile d'avoir une relation de confiance avec l'école quand en réalité tout ce que tu représentes est souvent nié, dénigré, rabaissé, tu es souvent infantilisé. Je pense que déjà le couple parent-prof, c'est quand même quelque chose d'assez particulier, qu'on soit racisé ou non. Oui. Mais en plus de ça, le fait de rajouter en fait des critères bien particuliers au fait d'être bon parent, des critères physiques carrément. Mmh. Là, on en revient en fait à des critères vestimentaires, physiques, croyances. Moi, je trouve que ça met quand même en plus une espèce de défiance entre quand t'es parent racisé et l'école. Quoi.
Oui, mais parce qu'en plus, on va dire que si ton enfant se retrouve en difficulté, le critère ethnique va arriver en fait.
Exactement.
C'est-à-dire qu'en gros, ils vont supposer, il a du mal, c'est normal, il doit y avoir trop de bruit à la maison, il doit regarder la télé tout le temps, ils doivent peut-être vivre dans un logement trop petit, donc ils n'arrivent pas à s'occuper de lui, ou il y a peut-être trop de frères et sœurs.
Ce qui peut être le cas, mais ce qui peut être le cas, si c'est le cas, c'est un problème de la société, mais qui n'est pas dû aux parents en fait.
Voilà, c'est ça.
Ce n'est pas une faute des parents. Et le fait de te mettre en zone ZEP, te mettre dans certaines régions de la France, dans des banlieues et tout ça, c'est déjà un poids que tu n'as pas choisi, parce que personne n'a choisi d'aller vivre là-bas. Mais en plus de ça, on te le reproche, ce côté-là aussi, en disant « Bah ouais, mais vous êtes tant dans un appartement, mais personne n'a choisi de vivre à 5 dans un studio. »
Tu vois, au lieu de te dire que c'est un problème socio-économique, ils vont te sortir que c'est culturel. Tu vois, c'est dans ce sens-là que je te dis ça. Ils vont dire oui, non mais c'est parce qu'ils aiment vivre tous entassés entre eux là, et il y aura jamais le côté peut-être qu'il a un travail qui est précaire, ils essaient de s'en sortir comme ils peuvent.
C'est souvent en fait les personnes racisées qui ont des postes les moins bien payés, qui cumulent en fait plusieurs travails. C'est vrai qu'il y a aussi tout ça, mais à partir de là, il n'y a pas forcément l'envie de comprendre.
Non. Et à la limite, quand le parent est en demande et qu'il veut de l'aide, la solution proposée n'est jamais adaptée. Je donne l'exemple, j'ai une maman à l'école qui est maman solo et qui s'est rapprochée de la maîtresse pour avoir de l'aide pour les devoirs, pour avoir un petit peu plus de suivi et tout. Tout de suite, ça a été, si vous n'êtes pas capable de vous en occuper, on va les placer, quoi.
Ouais. Cette histoire de placement dont tu parles, on a tendance à enlever en fait les enfants racisés de leur sphère familiale, parce qu'il y a aussi le fait de nier la capacité des femmes noires ou des femmes racisées. Alors ça dépend aussi, les femmes asiatiques c'est encore tout autre chose, mais les femmes maghrébines ou les femmes noires en fait, on leur enlève cette capacité d'être mère, et ça depuis toujours. Ça aussi un historique. Par exemple, je vais revenir encore sur mon histoire des enfants de la Creuse. On a quand même enlevé à des femmes réunionnaises leurs enfants pour les envoyer dans la Creuse en France pour les faire travailler. Leur a nié complètement leur parentalité.
Et ils ont enlevé l'enfance de ces enfants, puisqu'ils les ont fait travailler. C'était plus des enfants, c'était des travailleurs.
Exactement. Ça arrive quand même régulièrement dans l'histoire de la France de nier la parentalité, la capacité d'être de bons parents aux femmes racisées, aux femmes noires et aux femmes maghrébines. Et il y a ces stéréotypes de l'excision, du mariage de force, tu vois.
De l'autorité parentale, du père brutal, violent.
Exactement, qui forcerait ses filles à se voiler, qui serait, enfin voilà, il y a toujours cette espèce de domination masculine, par exemple derrière la tête de beaucoup d'enseignants.
Dans cet extrait, Fatima Wassak aborde la déshumanisation des parents racisés, perçus trop souvent comme démissionnaires et à la fois trop présents et autoritaires. Elle parle notamment d'injonctions paradoxales. Vous pourrez retrouver l'intégralité de cette conversation dans l'épisode 5 de la saison 2. Un pays dont on détruit les enfants est un pays sans avenir.
L'école reproche souvent justement qu'on soit démissionnaire, qu'on abandonne nos enfants. Dans ton livre, tu le dis très bien. D'un côté, on nous reproche, on reproche à nos parents et à nous-mêmes d'être démissionnaires, mais de l'autre côté, on nous reproche d'être trop présents, envahissant et ne laissant pas la place en fait à nos enfants.
Bah, c'est les injonctions paradoxales qui ont comme fonction clairement de nous détruire psychiquement, vraiment. C'est-à-dire que tu es là pour tes enfants, tu leur transmets tes héritages, ce que t'es en fait. Après, moi, je valorise pas un héritage plus qu'un autre. Moi, je dis voilà, c'est bah nos héritages, voilà. Ne pas trembler, ne pas avoir de complexe d'infériorité par rapport à ces héritages. Donc, tu transmets tout ça. On dit que tu es envahissante, tu es obscurantiste, tu imposes ta culture, ta religion. Bon, évidemment, quand on parle de religion problématique, c'est l'islam. Donc, tu imposes tout ça à tes enfants. Tu en fais trop. Et dans le même temps, mais ça peut être dans la même phrase, on considère que tu es un parent laxiste, démissionnaire. Tu ne tiens pas tes enfants. Lorsque Ziad et Bouna sont morts en 2005, on a reproché aux parents de Ziad et aux parents de Bouna de ne pas avoir tenu leurs enfants. Si leurs enfants sont morts, c'est parce qu'ils les ont laissés dehors et ils les ont mal éduqués. C'est pour ça qu'ils ont fui la police, etc. etc. C'était les parents qui étaient responsables parce que laxistes. Et donc, et ces injonctions paradoxales, tu vois, quand t'es isolé et t'es face à ça, mais comment ne pas péter un plomb, en fait? Donc moi, je pense qu'il y a cette fonction-là. Et puis, tu sais, il y a quelque chose de très simple hein, sur le fait de ne pas être considéré dans notre pleine et entière dignité de parents et de mères. Il y a un truc très simple. C'est les représentations qu'on a des familles noires, arabes, roms notamment, où on est persuadé qu'il n'y a pas d'amour dans ces familles. Il n'y a pas d'amour. Nous, il n'y a pas d'amour dans nos familles. La relation que l'on a avec nos enfants, c'est pas une relation d'amour. On utilise nos enfants. On utilise nos enfants pour avoir des allocations familiales. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on en fait plein. On fait plein d'enfants, pas parce qu'on aime les enfants. Si on fait plein d'enfants, c'est pour les allocations familiales.
Parce qu'ils vont nous servir à quelque chose.
Voilà. Et moi-même, alors que j'ai que deux enfants, je veux dire, j'ai pas, voilà, je suis pas la démographie africaine envahissante en France. J'en ai fait que deux. Et ben, même ces deux enfants-là, moi, c'est pas par amour en fait que je me lève le matin et que je me bats, que j'ai créé le Front de Mer, etc. Non, c'est parce que je veux les instrumentaliser à des fins obscures. Donc voilà, j'ai un projet masqué. C'est d'ailleurs ce qui s'est passé lorsque j'ai militer, demander au départ, c'était même pas militer, demander une alternative végétarienne à la cantine, j'utilisais ma fille pour imposer la charia, pour imposer l'islam, le halal, ça commençait avec le halal, mais en fait, derrière, voilà. Et mais, non, mais tu vois, mais il y avait voilà. Ça derrière, il y avait cette représentation de la mère qui ne fait pas ça vraiment pour son enfant. Mais parce qu'il y a cette représentation des parents...
Machiavéliques.
Alors, machiavélique, mais au départ, je crois que ça vient de ça, du fait que nous, on est incapable d'aimer nos enfants. Voilà. L'amour, en fait, c'est quelque chose de trop élaboré, trop sophistiqué pour nous. Voilà. Non, nous, c'est un truc très utilitaire, en fait. Nous, on fait des enfants, je dis, pour les allocations familiales. On fait des enfants pour se reproduire. Parce que, voilà, voilà, comme tout animal, en fait. On est des animaux. Bah, les animaux, ils cherchent à se reproduire. Bah, c'est pour ça que les Africains, ils font des enfants. Et vraiment, ça, il faut vraiment l'avoir en tête pour comprendre parfois pourquoi on est autant déshumanisé, en fait. Pourquoi vous ne voulez pas considérer que, en fait, si je fais ça, si nous faisons ça, c'est pour nos enfants, parce qu'on veut que nos enfants s'en sortent, parce qu'on aime nos enfants. Non, tu vois, même cet amour, il nous est dénié, quoi. Et ça, je pense que c'est important, vraiment, pour comprendre la mécanique, en fait.
Des enfants qui sont maltraités, ça n'existe pas que chez des personnes racisées. Hein. La pédophilie, par exemple, bah, on en voit en fait dans des familles blanches. Et pourtant, je trouve qu'il y a moins d'inquisition en fait des familles blanches par rapport aux familles racisées. Il y a toujours ce doute de maltraitance qui plane. On est toujours coupable en fait en tant que parent
raciste. Tu vois, malheureusement, je pense que cette relation aussi de confiance avec l'institution scolaire, c'est qu'ils estiment que les parents racisés viennent pas aux réunions, ne s'intéressent pas. Mais c'est pas qu'ils ne s'intéressent pas, c'est qu'ils n'ont pas envie de se sentir rabaissés ou renvoyés à un rôle de mauvais parent. Quel parent a envie de se sentir encore infantilisé ?
Oui, il y a une méfiance.
Ben oui, une méfiance.
Et tu vois, tout à l'heure, quand je te disais par rapport à, au risque et tout ça, au fait de se dire les enfants risquent d'être excisés, ça amène aussi une espèce de violence, parce que moi, je sais pas toi, mais moi, je me rappellerai toujours de la fois où j'ai emmené ma petite fille qui avait 3 ans chez le pédiatre et que réellement, ils ont dû regarder en fait son intimité. Et moi, je trouve que c'est quand même super agressif, intrusif, d'aller déshabiller des enfants comme ça, qui ne sont pas préparés, de leur demander en fait, sans consentement, de montrer leur intimité. Moi, je trouve que c'est réellement une intrusion qui est juste incroyable en fait. On en avait parlé toutes les deux et tu m'as dit que toi aussi, on t'avait demandé pour ta fille de faire la même chose. Et moi, j'en ai parlé avec une autre copine et elle est blanche et on ne lui a jamais demandé ça. Et elle a été choquée en fait et j'en ai parlé dernièrement. Elle est venue à la maison et je lui ai parlé de ça et elle m'a dit « Quoi ? De quoi ? Mais attends, comment ça ?»
Moi, j'ai eu droit. Et elle m'a dit « Non, c'est pour vérifier
que tout va bien.
Que tout va bien, qu'il n'y a pas de... » Elle ne m'a pas dit de mutilation, mais c'est sous-entendre ça. Quoi. Et tu sais, je suis restée bête. j'ai même pas répondu parce que je ne m'y attendais pas. Donc, j'ai dit « Ok. »
Mais moi, ma fille, elle ne voulait pas. Elle s'est mise à pleurer, en fait. Tu vois, parce qu'elle a trouvé ça quand même. Et moi, j'ai dû à un moment me fâcher, en fait, et dire que non, que je ne voulais pas. Mais elle l'a fait quand même sur la plus petite et qui s'est tordue dans tout sens. Et la grande, elle ne voulait pas. Elle m'a dit non, 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 non. Ouais, il faudrait faire un sondage, en fait. Si vous êtes des mamans blanches et que vous avez des enfants entre 3 et 9 ans, dites-nous si
on leur a demandé
des filles entre 3 et 9 ans, si en fait vous avez dû montrer aussi bien à la médecine scolaire ou chez votre pédiatre le sexe en fait, l'intimité de votre fille. Tiens, voilà, ça serait bien que vous puissiez nous dire ça.
Qu'on sache. Mais moi, c'est normal.
Voilà, en tout cas, la personne avec qui j'ai discuté dernièrement, il y a quelques jours, m'a dit, bah quoi, de quoi, non, moi j'ai pas eu ça, quoi. Donc, je me pose quand même la question de savoir, en fait, est-ce que ce genre de contrôle arrive chez toutes les petites filles en France,
oui,
quand elles ont entre 3... Toi, c'est arrivé à quel âge?
Tu vois, moi, elle n'avait même pas 3 ans, elle avait 1 an et demi.
Voilà. Donc, 1 an et demi, puis 9 ans.
Voilà, c'est ça.
Voilà. Donc, et je trouve ça quand même assez agressif. Donc, c'est aussi ce côté, je te dis, en fait, le
suspicion.
Fait de dire, bah ouais, en tant que parent, il y a toujours une suspicion.
En tout cas, ce qui est sûr, c'est que je veux dire, c'est que quand tu as un parent racisé, de toute façon, t'as toujours tort. Soit t'es trop laxiste, soit t'es trop autoritaire, soit t'es trop envahissant, soit t'es absent. Et moi, je pense que les enfants ne nous disent pas tout. Ils doivent pas tout nous dire parce que, tu vois, moi, une fois, j'ai mis un mot dans le cahier de ma fille parce que elle se faisait taper par son voisin. Mmh. Elle m'a dit, oui, la maîtresse, elle a rigolé quand elle a vu ton mot, quoi. Et elle a dit
oui,
Et elle a dit à sa collègue, viens lire le mot, tu vas rire.
Ah oui, c'est vrai, elle a dit ça devant ta fille, viens lire le mot, tu vas rire. Et elle a appelé sa collègue.
Voilà, c'est ça.
Mais c'est une forme de décrédibilisation aussi des parents, quoi, devant les enfants, de faire ce genre de choses.
Donc, je me dis, t'imagines le sentiment que ma fille a dû avoir en disant, mais elle est en train de se moquer de ma mère, là. Quelle autorité, nous, on a après, quand tu dis que le système éducatif peut se moquer de toi comme ça, de manière aussi tranquille, devant ton enfant.
Non, mais c'est sûr. Mais moi, pour moi, c'est même pas une question d'autorité. En fait, ça fait du mal à l'enfant. C'est pas l'autorité qui m'interpelle là-dedans. C'est la façon de vouloir dire à l'enfant, peu importe ce que tes parents peuvent dire ou penser, on s'en moque. Et c'est pour ça que je te disais tout à l'heure, avec l'histoire des mamans qui portent le voile, j'ai regardé dernièrement sur YouTube une vidéo d'une maman face à Najat Belkacem. Elle était la porte-parole d'autres mamans qui avaient été renvoyées lors d'une activité scolaire. Ils étaient en train de faire des pâtisseries à l'école.
Ouais.
Donc elles sont rentrées, elles allaient bien, elles faisaient des pâtisseries avec les enfants. Et puis tout à coup, la directrice de l'école qui est arrivée et il leur a dit qu'elle n'avait pas apporté en fait le foulard, qu'il fallait qu'elles enlèvent le foulard. Et la maman a refusé d'enlever le foulard. Et puis dans ces cas-là, elle est revenue avec une personne du rectorat apparemment, et elle leur a dit bah écoutez, soit vous enlevez le foulard et vous restez, soit vous gardez ce foulard, mais dans ces cas-là, on arrête l'activité. Donc tous les enfants arrêtent l'activité.
Alors pression, pression chantage
soit,
en plus.
Même, voilà, exactement. Soit de force, ils vont les en renvoyer quoi.
D'accord.
Et du coup, la maman, elle a pas voulu enlever son foulard. Donc elle est sortie, elle est partie de l'activité. Et du coup, son enfant s'est mis à pleurer.
Jeanne, dans cet extrait issu de l'épisode 7 de la saison 2, intitulé « La politique éducative, essentialisation et assignation des élèves », nous rapporte ici le cas aberrant d'un parent d'élève qui a été accusé à tort d'imposer le ramadan à son enfant lors d'une sortie scolaire. Elle nous montre comment un simple oubli a mené à cette accusation.
Enfin, moi, je l'ai vu sur plein de situations, et notamment ces dernières années où on signalait les enfants pour radicalisation.
Oui.
Enfin, je veux dire, je l'ai vécu de l'intérieur. Une histoire banale d'un, je donnerai pas le prénom, mais voilà, d'un ami qui était dans la même école que mes enfants. Le jour, pendant la période du ramadan, son fils en CE1, CE2 ou CE2 partait pour un pique-nique avec la classe. Il a oublié son pique-nique. Donc, personne n'appelle le papa pour lui dire que son enfant, ou la maman, pour lui dire que l'enfant a oublié le pique-nique. La directrice de l'école, donc, a décidé que l'enfant faisait le ramadan. Elle a posé la question à l'enfant, il lui dit « Non, je ne fais pas le ramadan, j'ai pris mon petit déjeuner, j'ai oublié mon pique-nique. » Qu'est-ce qu'elle a fait, sa directrice d'école? Elle est revenue, elle a toujours pas appelé ni le père ni la mère, elle a appelé l'inspection et elle a fait un signalement.
Ouais.
Elle a signalé, donc le père de famille, voilà, disant que voilà, il y avait un signalement de radicalisation, un risque de radicalisation.
Mais te rends-tu compte? Enfin, je trouve ça juste affreux et de se dire tous ces raccourcis en fait. Ouais. Son stéréotype, elle l'avait déjà dans la tête.
Bien sûr.
Voilà, elle attendait juste le petit truc pour pouvoir en fait valider son stéréotype.
Oui, complètement.
De se dire ah, ça aurait été un enfant blanc qui avait oublié son pique-nique. À aucun moment, elle appelle qui que ce soit pour dire qu'il y a radicalisation.
Mais complètement. Voilà. Et pour le coup, peu importe la classe sociale, parce que
Non, bien sûr.
Là, je parle d'une personne qui a un niveau social extrêmement élevé, mais il a été mis dans la case musulman, racisé musulman, et donc elle s'est permis. Alors, il faisait partie des représentants de parents, et on s'est retrouvé face à l'inspection, et on a travaillé le dossier, et on est arrivé avec leur guide de la laïcité, en surlignant, en écornant chaque page, pour vraiment leur mettre leur racisme face à eux, leur montrer leur racisme, et montrer à quel point c'est ridicule. Parce qu'on s'est retrouvé avec l'inspectrice, deux représentants de l'État qui défendaient la laïcité au sein de l'école, et il a fallu que on défende le fait qu'il n'était pas qu'il n'obligeait pas son enfant à faire le ramadan. Donc avec ce parent, on s'est retrouvé face à ces personnes qui étaient en train de nous expliquer qu'il obligeait son enfant à faire le ramadan et que c'était contre les lois de la République et les lois laïques, qui sont censées être mises en application au sein de l'école.
Mais il y a toujours ce côté préjugé coupable, déjà. On est toujours vu, perçu avec un œil, un regard un peu accusateur. On va faire des choses horribles. On est des derrière ça, il y a le côté terroriste. On est des monstres.
Mais c'est ça. Mais complètement. Enfin, c'est une aberration totale pour un enfant qui a juste oublié son
CE2.
Pique-nique.
Un enfant CE2 qui a oublié son pique-nique.
Et ce qui est inquiétant, c'est qu'à aucun moment elle n'a appelé les parents et que l'enfant n'a pas mangé de la journée. Il a eu quelques biscuits par ses copains.
Ouais. Il n'y a pas le bien-être de l'enfant derrière tout ça.
Absolument. Je veux dire, elle est directrice d'école. Elle a ses a priori. Elle a son racisme, son islamophobie. Ok. Mais là, on parle d'un enfant. Donc, la première chose, c'est d'appeler le parent en lui disant « Vous arrivez tout de suite et vous apportez de quoi
manger.
Nourrir l'enfant. » Et l'enfant n'en a pas parlé, parce que on l'a su après, parce qu'elle n'a pas non plus appelé le papa. Et l'enfant n'en a pas parlé parce qu'il se sentait coupable, comme s'il avait fait quelque chose de mal. Ce qui est pareil, une aberration. L'institution fait porter à un enfant déjà de la maltraitance et... une façon de remettre en question son identité, sa foi, la foi de ses parents.
Et Et voilà, c'est de mettre des parents dans des situations comme ça. L'enfant pleure, il comprend pas, ses parents sont stigmatisés, ils le voient. Ce que représentent ses parents, les croyances de ses parents, les valeurs de ses parents sont ridiculisés, les parents sont humiliés devant leurs enfants, et l'enfant, il est dans une situation mais vraiment compliquée, délicate. Il y a rien qui te brise plus le cœur que de voir tes parents vivre une injustice, quoi. T'as l'impression que c'était super héros, que rien peut leur arriver.
Ils sont infaillibles et que tu peux compter sur eux quoi qu'il advienne.
Et ton monde s'écroule un peu.
Voilà, c'est ça.
Quand tu vois qu'en tant que parents, eux aussi vivent des injustices et on les traite de cette façon, et tu comprends pas non plus. Donc ça crée déjà une scission entre l'école et toi, et en même temps ça crée une scission dans la façon dont tu
perçois tes parents. Et puis c'est surtout c'est aussi est-ce que tu dis, enfin peut-être que j'extrapole, mais en tant qu'enfant où tu dis que tes parents sont comme tu dis des super-héros qui sont toujours là pour te défendre et que tu vois que d'autres adultes les ridiculisent, tu dis mais est-ce que je peux compter sur eux pour m'aider, est-ce que ce sera les bonnes personnes, est-ce qu'on les écoutera, est-ce que... Donc tout ça, c'est à prendre en compte, c'est que un enfant qui voit ses parents se faire ridiculiser, il se dit bah peut-être qu'il sera pas apte à me défendre. Donc c'est assez difficile, hein, je pense, pour eux.
Pour moi, hein, je pense que c'est aussi un des facteurs qui peut faire aller vers le décrochage scolaire, le fait de plus avoir confiance aux adultes, à l'école, à la structure de l'école et à tout ce qui s'y passe, en fait. Donc,
et puis à ses parents,
à partir
aussi,
du moment
du coup,
où tu vois... Oui.
Oui, parce que tu fais plus confiance à tes parents. Parce que tu te dis, comment vous pouvez me défendre si déjà vous n'arrivez pas à vous défendre. Donc, ça joue aussi, hein.
Moi, j'étais la seule noire de mon école. Et ma mère, elle venait très, très peu à l'école. Alors, par contre, à la maison, elle était vraiment très impliquée. Les devoirs, c'est elle qui me les faisait tous les jours. Elle les faisait avec moi, elle m'aidait, elle vérifiait. Elle regardait toujours le cahier, s'il y avait un mot. Elle écrivait aussi dans le cahier, s'il y avait des informations à donner ou autre. Mais elle n'aimait pas du tout à aller à l'école. Parce que, déjà, les autres parents d'élèves avaient aussi un regard sur elle.
Qu'elle aimait pas.
Et elle allait, par contre, à toutes les réunions de classe, toujours. Elle parlait pas à d'autres parents quand elle venait me chercher. Et les autres parents, d'ailleurs, restaient bien entre eux. Par contre, pour l'école de mon petit frère, lui, il était dans une école où il y avait beaucoup plus de mixité. Donc, mon frère, il avait des copains maghrébins, des copains asiatiques, des copains blancs. Il y avait vraiment plus de mixité. Là, par contre, tu vois, à chaque fois, il y avait vraiment une énorme différence parce que ma mère, elle restait à parler. Elle venait toujours un peu plus tôt. Elle parlait avec les mamans, les autres parents d'élèves. Oui. Et tu voyais aussi la différence quand l'enseignante était racisée ou non. Des enseignants qui vont être blancs, déjà, il y avait un froid, mais réellement entre les deux, quoi, tu vois. Il y avait aussi une espèce de méfiance, on va dire. Parce qu'il y avait des stéréotypes, il y avait des jugements, ne serait-ce que la façon dont certains enseignants se comportaient face à une population en fait mixte. Ces stéréotypes, ces préjugés qui pesaient sur elle aussi, du fait de se dire elle était une personne noire et les enseignants se comportaient. Il y avait aussi, tu le voyais en fait, les enseignants, ne serait-ce que physiquement, dans leur manière d'être, la façon de parler, la façon de tutoyer parfois ma mère.
Oui, carrément.
Non, mais carrément, ouais. Je te dis, j'avais un enseignant comme ça, tu sais, du genre un peu le cercle des poètes disparus. Ouais. Je vais pas citer son nom, on sait jamais. Ouais. Mais je l'appelais comme ça à chaque fois. Et il avait tendance à tutoyer ma mère, à faire croire que, tu vois, et en fait, il tutoyait pas les autres parents, il y avait que ma mère qui tutoyait, tu vois.
C'est genre à sortir la vieille excuse. Non, mais chez les Noirs, il n'y a pas de problème, tu peux tutoyer.
Surtout qu'à Madagascar, tu tutoies pas les gens comme ça. Tu t'adresses aux personnes selon leur âge, selon...
C'est pas ton pote, hein.
Exactement. Les amis de tes parents, tu t'adresses pas de la même façon à eux. Tu tutoies pas facilement comme ça. Moi, je tutoyais pas les copines de ma mère, par exemple. Selon l'âge de la personne, selon la distance qu'il y a entre vous, en fait, c'est très important de vous voir ou d'appeler les personnes différemment. Et l'autre, il tutoyait ma mère comme ça. Ma mère, elle était...
Elle était outrée.
Ah ouais, non, mais elle le regardait, tu sais, elle savait pas trop où elle était tombée, là.
Vous allez entendre les témoignages de Fatima Wassak et de Jian. Dans cet extrait, elles racontent toutes les deux le rapport déséquilibré entre l'école et les parents racisés, allant de l'infantilisation jusqu'au mépris. Afin de se protéger de cette violence et d'épargner son père, Jian a choisi de lui cacher et réunions parents-prof.
Quand j'amenais ma fille en maternelle, j'avais une boule au ventre. J'étais mal. Je circulais mal dans les couloirs. J'étais pas à l'aise, en fait. Il y avait... une manière d'infantiliser le parent, une manière de lui dire, bon, il se trouve que je suis quand même souvent en retard, j'avoue. Il y a toujours une raison, mais je suis souvent en retard.
Tu crois en stéréotype, non, voilà, mais ça va pas.
Je confirme à fond ce stéréotype-là. Mais c'était quoi? C'était des retards de quelques secondes, quoi.
Wow. Et, oh, oui,
et, mais vraiment, la manière dont j'étais interpellée, alors c'était un vrai problème, le retard, c'est un problème, on peut en discuter. Entre adultes. Je veux dire, voilà, moi, j'accepte tout à fait de parler de ce problème-là, mais d'être considérée comme une adulte. Là, il y avait un ton de voix, mais comme si j'avais l'âge de ma fille, en fait. Et j'étais obligée de dire, non, mais je suis pas une élève, en fait. Moi, je suis un parent. Je suis, voilà, une mère de famille. Et ça, c'est compliqué. Je sais aussi qu'il y a beaucoup de parents qui ont l'impression, lorsqu'ils amènent leurs enfants à l'école, qu'il ne s'agit pas de leurs enfants. Et qu'il ne s'agit pas de leurs enfants. Ils ont honte, en fait, de mal faire. Tu vois, sur le vêtement de l'enfant, sur ce que fait l'enfant à la maison, la consommation d'écran, la télévision, parce que, voilà, ils sentent ce reproche, en fait, insidieux de la part de l'institution, qui consiste à dire que le parent s'occupe mal de l'enfant.
On a vu nos parents vulnérables, humiliés. Et ça a aussi créé, parfois aussi, des situations où on a pu avoir honte de nos parents.
Oui, alors complètement. Je me rappelle quand j'étais en école élémentaire, on était en centre-ville, donc c'était une bonne école de centre-ville. Et j'arrive dans la classe, je vois que des personnes blanches, j'étais la seule personne racisée. Et je rentre à la maison en pleurant. Et je dis à mon père, je lui dis, mais je suis la seule bronzée, Et là, il me dit, mais c'est pas grave, tu as ta place comme les autres, etc. Et puis, je me suis dit, OK, j'ai ma place comme les autres. Et je voyais leurs parents venir les chercher à l'école. Et petit à petit, dans cette école-là, il y avait quelque chose qui grandissait en moi qui ressemblait à de la honte. Parce que mon père venait en bleu de travail, qu'il était petit, très bronzé, trapu, avec son petit accent, sa gouaille méditerranéenne, où il parle à tout le monde, il tape sur l'épaule de tout le monde, il tutoie tout le monde. Et je voyais les autres parents qui étaient dans l'inversion totale. Et je lui demandais de pas venir me chercher, petit à petit. J'allais chercher mes frères et sœurs, et je lui dis, c'est pas la peine, te dérange pas, je connais le chemin. Et je crois que le pire, c'était au collège, où une fois il est venu, j'ai fait comme si je l'avais pas vu.
Ouais.
Pareil, dans un collège qui était aussi beaucoup de blancs, etc. Et là, maintenant, des années après, je me repasse ça et je m'en veux énormément parce que je me dis, mais il m'a offert cette possibilité de me dire que je n'étais pas inférieure aux autres, que j'avais les mêmes capacités intellectuelles. Il était dur, il était derrière nous constamment. Il nous disait très souvent, ma seule richesse, c'est que vous ayez 7 bacs. J'ai 7 enfants, je veux 7 bacs. J'ai pas d'argent.
Non, mais le bac, c'était important.
C'était important, le bac. J'ai pas de richesse, je n'ai rien du tout. Je veux ça. Ça voudra dire que tout ce que j'ai fait et tout ce que j'ai subi a du sens. Maintenant que j'ai ça en tête, et d'ailleurs j'en ai là des frissons, mais je me revois encore être avec ces petites copines blondes et me sentir au même niveau qu'elles, etc. Et voir mon père arriver et faire comme si il était, je le voyais pas, et partir avec elle. Voilà, toutes mes années collège, je l'ai mis de côté. Je ne lui donnais pas les dates des réunions parents.
Oui.
Je disais que mes parents pouvaient pas venir, qu'ils n'étaient pas disponibles, qu'ils étaient ailleurs.
Et pourquoi tu donnais pas les dates?
Parce que tout d'abord, je pense que je ne voulais pas qu'ils subissent des moqueries. Et je ne voulais pas, par ricochet, subir ces moqueries aussi. Ils ressemblaient pas aux autres parents. Ils avaient une forme d'approche des enseignants qui était oui monsieur, oui madame. Les autres parents étaient tenaient tête aux enseignants, etc.
Un aplomb face à légitimité, on va dire.
Légitimité. Et là, je voulais pas qu'ils soient dans ce contexte-là, donc je ne leur disais jamais. Et pourtant, alors pour le coup, j'ai une scolarité qui était bonne scolarité. Pourtant, ils allaient entendre des belles choses. Et pourtant, ils allaient entendre que tout se passait bien et que, voilà, j'avais de bonnes notes, etc. Mais je ne voulais pas les faire entrer dans cet univers-là parce que je savais qu'il était violent pour eux. Je ne voulais plus les voir aussi se faire humilier. Et je ne voulais pas être humiliée. C'est très dur ce que je dis.
Non, mais c'est très dur ce que tu as vécu aussi.
Oui. Mais c'est vrai que je les ai mis à l'écart. Et pourtant, mon père croisait certains de mes enseignants. Mmh. Je pense à mon prof de sport au marché, lui posait la question, etc. Et il a dû lui dire pourquoi vous n'êtes pas venu. Mais mon père ne m'en a jamais parlé. Voilà.
Toi, tu penses qu'il le savait ?
Je pense qu'il le savait. Il est venu de moins en moins.
Parce que tu vois, dans la revue internationale de l'éducation familiale de 2009, tu as Abdel Jalil Akari et Nima Shankakoti. Qui ont écrit donc dans la revue internationale de l'éducation et ils disent dans l'étude que en France en particulier il y a un malentendu en fait et le malentendu est le produit de l'idéal universalisant de l'école républicaine qui s'adresse à tous en prétendant ignorer le statut social et plus généralement la diversité des élèves au nom du principe d'égalité.
C'est le colorblind version.
Voilà, c'est ça exactement, le colorblind.
Une autre version.
Alors, il dit, or, comme le souligne à juste titre Brunet en 1996, l'école ne peut jamais être considérée comme culturellement neutre. Donc, parce qu'il y a une histoire, il y a l'école...
déjà l'histoire où c'était le primaire pour les ouvriers et le secondaire pour la bourgeoisie. Donc, voilà.
Donc, à partir de là, l'école aussi prône, oui, des valeurs, prône, je vais pas dire une propagande parce que j'exagère un petit peu. Enfin, à partir du moment où on considère que l'école est le microcosme de la société, il y a des choses qui se jouent à l'école, quoi.
Oui.
Les relations entre adultes, la façon dont certains enseignants voient les parents... C'est aussi la même chose que ce que tu vois en extérieur. Hein. Le racisme que tu peux trouver à l'extérieur, tu le retrouves aussi à l'école.
Et puis, il y a certaines mesures qui sont prises, qui sont utilisées à l'école, qui relèvent du ministère autre que du ministère de l'Éducation. Tu vois, par exemple, en 2009, ils ont fait ce qu'ils appelaient « ouvrir l'école aux parents pour réussir l'intégration ». C'était un partenariat entre le ministère de l'Éducation et le ministère de l'immigration, l'intégration et de l'identité nationale. Donc, t'as un truc où on parle d'éducation, d'immigration, d'intégration et d'identité nationale. Donc, en gros, ils sont partis du principe au ministère de l'éducation que les enfants qui étaient en difficulté scolaire, c'était dû aux parents. Et donc, c'est même pas que dans une approche d'éducation nationale, c'est que tu vois que tout de suite, il y a le côté intégration et identité nationale qui est venu se greffer à ça. Donc, ce dispositif, c'était pour dire aux parents, bah si vos enfants ils y arrivent pas, c'est peut-être parce que vous n'êtes pas assez intégrés. Mais tu parles d'intégration de gens qui sont français. Ça te montre déjà l'estime que tu as pour eux.
C'était en quelle année, donc, ça, déjà ?
En 2009. Ils estiment que les parents racisés ne connaissent pas les valeurs de la société française. Et ce que je suis en train de te dire, c'est parce que je l'ai lu. Je l'ai vu dans un dossier sur le site de la Canopée où c'était mis... carrément mot pour mot, ses parents ont une méconnaissance des valeurs et des habitudes de la société française. Alors avant, ils allaient dire l'immigration. Maintenant, je suis désolée, toutes les générations qui sont nées en France sont françaises. Donc on peut même plus parler d'immigration. Donc tu as toujours ce côté où tu dois justifier de ton intégration pour qu'on te considère comme un parent apte à élever ton enfant. Tu te rends compte ? Voilà. Donc, en plus d'avoir une domination du corps enseignant sur les parents racisés, dans le comportement, dans les rapports, t'as aussi une domination par la culpabilité. Parce que quand tu mets en place ce genre de dispositif, l'échec de ton enfant s'est renvoyé aux parents en pleine tête, quoi.
Non, mais c'est
genre, c'est de ta faute, hein. Si ton enfant n'y arrive pas, c'est pas nous, l'école. Nous, on fait tout ce qu'il faut, hein. C'est toi qui n'es pas apte à savoir t'occuper de ton gamin. Bah, en fait, du coup, le système ne se remet pas en cause.
Et c'est connu même en dehors de la France, hein, en Angleterre, en Belgique, au Canada. Cette accusation des parents. D'ailleurs, dans cette revue, toujours, ils disent « Les parents d'élèves migrants et ceux de classe populaire sont accusés d'être démissionnaires, inadéquates, absents. Il est vrai que les parents d'élèves migrants sont généralement peu présents à l'école. Au sein des associations de parents d'élèves, leur voix est rarement entendue. Mais comment se faire entendre face à l'attitude paradoxale de l'école qui leur demande de collaborer tout en leur déniant la compétence pour le faire.
Bah, c'est ce qu'on disait tout à l'heure.
Voilà. Ce malentendu historique se retrouve de façon moins polarisée peut-être, avec des nuances dues aux contextes différents en Suisse, en Belgique, au Canada et dans bien d'autres pays. Alors, à partir de l'analyse de 64 études récentes, Boetel, en 2003, a montré que les familles appartenant à des minorités raciales, ethniques et culturelles sont par ailleurs activement impliquées dans la scolarisation de leurs enfants. Donc, en réalité, ce sont bien des idées reçues, tu vois. C'est un a priori. Mais quand on fait des études, on montre les parents racisés sont activement impliqués dans la scolarisation de leurs enfants. Mais par contre, ça n'empêchait que à l'école, il y avait des enseignants qui prétendaient que ma mère n'était pas impliquée, alors que je peux t'assurer que j'avais pas intérêt à ramener une mauvaise note. Et puis du genre, les week-ends, il y avait devoirs supplémentaires.
Voilà, tu sais, c'est ce que j'allais dire. Tout le monde avait droit à la petite dictée.
T'avais une pression de dingue.
Devoir de maths en plus pour être sûr que t'avais bien compris.
Mais c'est ça.
Tout était du plus, hein. Il y avait jamais genre tu fais que tes devoirs puis tu t'arrêtes, hein. Mais en fait, ils disqualifient les parents parce que en invoquant les parents racisés, infériorité intellectuelle, infériorité culturelle. Infériorité au niveau de la morale, parce que bien sûr les parents racistes, morale c'est que tu passes ton temps devant la télé, tu manges tes cochonneries et tu fais ce que tu veux, quoi. Tu vois, en fait, pour moi tout est c'est pas que c'est ils veulent pas se rendre compte. Pour moi, je pense que c'est conscient pour certains, et je pense que pour certains c'est inconscient, c'est dans le fonctionnement même de la manière dont ils voient la société, en disant mais
oui, tout à fait,
mais en gros ils ont des mauvais boulots parce qu'ils sont pas intelligents. Ils ont des mauvais boulots parce qu'ils s'intéressent pas à la culture. Ils sont dans des logements, excusez-moi, je vais dire le gros mot, de M, parce que ils ont pas le salaire qu'il faut et qu'ils font rien pour s'en sortir. En gros, tout le processus de disqualification, c'est pour dire mais le problème c'est vous, quoi.
Exactement.
Donc voilà.
Mais d'ailleurs, on a eu le témoignage en message privé de certaines enseignantes blanches et des enseignantes aussi racisées qui nous ont dit qu'elles avaient clairement assisté à des comportements discriminatoires et racistes de leurs collègues à propos justement des parents de certains enfants. Donc avec bien sûr dans les salles de réunion des blagues racistes. Donc en même temps, enfin. D'ailleurs, on invitera une enseignante racisée afin qu'elle puisse aussi témoigner. Mais c'est vrai qu'il y a quand même des enseignants qui nous parlent de ça, qui nous racontent aussi comment leurs collègues se comportent vis-à-vis des enfants et des parents.
Mais on a tellement eu l'habitude de ce côté « fais pas de vagues » que même en étant parent, on continue à ne pas faire de vagues.
Oui, c'est ça. Ouais.
Donc faut qu'on apprenne.
Et en fait, ça sert à rien de pas faire de vagues.
Oui.
Parce que de toute façon, quand on a décidé de te nier et de te coller des étiquettes, que tu fasses de vagues ou pas, les étiquettes sont là. Donc, quitte à avoir ces étiquettes, à être victime de ces stéréotypes, justement, il faut se défendre
Faisons des vagues.
Ouais, faisons des vagues.
Voilà, je dis ça de rigolant, mais je suis sérieuse. Faut faire des vagues. Parce que de pas faire de vagues, au final, on t'entend pas.
Ouais, voilà.
Faisons des vagues. Ça va être le mot d'ordre.
Le dernier mot d'Ulrich, faisons des vagues.
Des vagues, oui.
En tout cas, on vous mettra des liens, des lectures qu'on a eues, des recherches, des articles.
Il y a Héritage et transmission dans la sociologie de Pierre Bourdieu, qui est très intéressant aussi à lire.
Oui.
Il y a la thèse de la professeure des écoles qui a fait son master en sociologie de Isabelle Leroux aussi, qui est très intéressant, qu'on vous mettra en lien. Donc voilà.
On va vous laisser. On vous dit à très bientôt. Et puis, si vous avez aimé le podcast, comme d'habitude, n'hésitez pas à nous mettre 5 étoiles. 5 petites étoiles sur iTunes, Apple Podcasts. Et n'hésitez pas à nous écrire. C'est vraiment important pour, si vous désirez nous supporter, de mettre ces 5 étoiles, de noter sur Apple Podcasts.
Et puis, n'hésitez pas à partager vos témoignages, comme on en reçoit régulièrement.
Sur Instagram ou alors par mail, lesenfants du bruit et de l'odeur, @gmail.com. On se dit à bientôt.
À bientôt, Wiska.
Salut.
Salut.
Au revoir, les amis.
Au revoir, les amis.